franceinter.fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le nazisme et l'Antiquité. Et d'abord un extrait de film.
Son Excellence, Herr Garbitsch, ministre de l'Intérieur, ministre de la Propagande.
Corona venit delectis. La victoire vient aux hommes qui la méritent.
Dans Le Dictateur, Chaplin avait vu juste. Les excellences du film parlent latin. Et à leur passage, la Vénus de Milo, qui a opportunément retrouvé ses bras, fait le salut nazi. Le nazisme a pillé l'Antiquité. La référence aux Grecs, c'était une vieille affaire outre-Rhin. La nation tardivement constituée avait besoin de références anciennes. Elle en avait trouvé beaucoup dans l'hellénisme. Le national-socialisme les manipula ensuite à sa façon. Et il ajouta à sa panoplie les trophées de l'Empire romain, avec l'objectif de faire encore mieux que lui, construire des monuments plus grands, des routes plus longues et durer plus longtemps. La chute intervint plus vite que prévu, mais Hitler la mit en scène comme s'il s'agissait d'un autre combat de Léonidas. On se souvient que le chef spartiate avait jeté théâtralement ses dernières troupes dans la gueule de l'ennemi. Les Jeux Olympiques de 36 pour commencer, Sparte pour finir, et entre les deux, les exemplats de Rome, Hitler se voyait comme un autre Prométhée projetant ses feux sur l'Europe. Notre invité, Johann Chapoutot, bonjour.
Bonjour.
Participez à un numéro hors-série de Philosophie Magazine qui est consacré au nazisme. Et vous posez la question, y a-t-il une pensée nazie ? Il y a une histoire nazie.
Oui, absolument. Il y a une relecture, une réécriture de l'histoire qui est très approfondie.
Et alors, dans cette relecture, l'Antiquité tient une place de choix, beaucoup plus que l'occultisme, l'ésotérisme. La rumeur attribue beaucoup aux nazis dans ce domaine, mais Hitler était d'abord passionné par les Grecs et par les Romains. Vous l'avez prouvé dans un livre, très gros livre, que vous avez publié en 2008 et qui s'intitule « Aux presses universitaires de France, le national-socialisme et l'Antiquité ». Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler quelques principes de base qu'on a oubliés, nous autres ? Toute civilisation, principe numéro un, digne de ce nom, descend du Nord. Si elle ne descend pas du pôle Nord, elle descend au moins de la grande race nordique.
Dans plusieurs manuels de formation des maîtres des années 30, d'après 1933, j'ai trouvé des cartes qui superposaient l'ancienne vision de l'histoire à la nouvelle. L'ancienne vision de l'histoire, c'est toute lumière vient de l'Est, toute lumière vient de l'Inde. Les Indo-Européens, la civilisation blanche, seraient venus des hauts plateaux de l'Inde. La nouvelle vision de l'histoire, disent les nazis, c'est au contraire, ex septentrione lux, toute lumière vient du Nord.
Mais attendez, moi ce qui m'ennuie, c'est que les Grecs et les Romains sont quand même des Méditerranéens. Alors je sais que la guerre de Troie n'aurait pas eu lieu si Hélène, tant convoitée, n'avait pas été une incomparable beauté nordique blonde, mais enfin...
C'est une oucase de principe méthodologique dans l'enseignement et sous le Troisième Reich que de dire que, effectivement, toute civilisation vient du Nord, dont les Grecs et les Romains. C'était une vieille hypothèse qui avait cours dans l'université allemande dès le XIXe siècle, que peut-être il y avait une procession nordique des civilisations méditerranéennes. Ce qui n'était qu'une hypothèse au XIXe siècle devient une thèse d'État que l'on doit enseigner obligatoirement, non seulement à l'école, mais aussi dans les organisations du parti.
Toute civilisation digne de ce nom vient de la race nordique. Les professionnels de la profession, vous parlez des professeurs de l'enseignement supérieur d'avant le nazisme, les professionnels de la profession enseignants du secondaire, enseignants du supérieur, archéologues, ils consentent.
Oui, alors du côté des nazis, il y a une volonté de s'annexer la Grèce et Rome pour illustrer la race nordique et montrer que les Germains n'ont pas produit que des huttes de mauvais bois ou ne se sont pas contentés de manger de la viande crue. Ils ont aussi construit le Parthénon, construit le Colisée, édifié l'Empire romain. Du côté des professionnels de l'histoire ou des lettres classiques ou de l'archéologie, il y a non seulement cette idée que L'hypothèse de la procession nordique de la civilisation existe, donc après tout, pourquoi pas? C'est quelque chose de plausible, de probable dans l'université allemande. Et par ailleurs, il y a un autre phénomène humain trop humain, qui est qu'après la loi d'avril 1933 d'arianisation de la fonction publique, un tiers des postes à l'université sont libérés. Donc il y a des carrières rapides à faire, pour peu qu'on signe opportunément un article bienvenu sur le juif à Rome ou sur la décadence raciale des Grecs.
Et puis alors dans le secondaire, le maintien de la discipline et de ses horaires, même au prix de l'autodestruction de la discipline, c'est un objectif à considérer. Les archéologues, par exemple, se sont distingués dans l'autodestruction de leur discipline.
Oui, ils ont été recrutés en masse par une organisation de la SS qui s'appelle l'Héritage des Ancêtres, le Ahnenerbe, qui était une sorte d'organisation pluridisciplinaire qui visait à illustrer la science allemande en biologie, en droit, en littérature, mais aussi en histoire et en archéologie. Et Himmler, effectivement, envoyait des légions d'archéologues fouiller les bois de Saxe ou de Thuringe, où sites grecs.
Et si on trouve sous les vases des croix gammées, c'est bon pour l'archéologue. Dans le dossier de Philosophie Magazine, il y a un dossier à l'intérieur du numéro spécial qui est consacré au cas Heidegger. Vous parlez d'ailleurs du rôle que Heidegger, quand il a été brièvement recteur de Fribourg en 1933, a tenu. Il était content que les nazis redécouvrent les Grecs.
Oui, alors le dossier Heidegger, c'est un dossier toujours éminemment polémique. J'ai consacré quelques pages dans le livre montrant que Heidegger se réjouit effectivement de la césure de 1933 parce qu'il y voit l'occasion d'une rupture civilisationnelle et culturelle. C'est-à-dire rompre avec le calcul technique, qui est celui de l'industrialisation, qui est celui de la modernité contemporaine, pour revenir à une pensée grecque de l'être. Or, Heidegger démissionne de son poste de recteur quelques mois après, en février 1934.
Oui, il est déçu. Imaginons que nous soyons un élève, ce qu'à Dieu ne plaise, de Fribourg ou d'ailleurs, en 33, 34, 35, on ouvre notre manuel et on va voir beaucoup de chapitres consacrés à la Grèce. À la Grèce, pas tellement à Athènes, hein, parce que Athènes, c'est un peu démocrate, c'est plein de métèques, mais à Sparte. Sparte, la laconique, la silencieuse, dont la discrétion crée un appel d'air pour le mythe.
Quand le garçon est né, comme tout Spartiate, il fut examiné. S'il avait été petit, chétif, souffreteux ou difforme, il aurait été éliminé. Dès son plus jeune âge, il fut initié à la violence du combat.
Mon père m'a appris que la peur est toujours présente, mais l'accepter te rend plus fort. Finalement, ce qui fait la force du Spartiate, c'est le guerrier près duquel il combat. Aussi respecte-le, honore-le, et il fera de même avec toi. D'abord, tu combats avec ta tête.
Ensuite, avec ton cœur.
N'oublie pas la leçon d'aujourd'hui.
Respect et honneur.
Respect et honneur.
On lui a appris à ne jamais reculer, à ne jamais se rendre, pour former les meilleurs guerriers que le monde ait connus.
L'extrait d'un film de 2006, Zack Snyder, 300. Comment appréciez-vous ce film où on voit des guerriers nus face à la lune, avec des corps d'acier bien huilé?
Parce qu'il me semblait que dans ce film, la représentation des Perses correspondait assez adéquatement à ce qu'en disent les textes grecs.
Ah, le Perse, c'est l'ennemi. Oui, mais le Spartiate avec ses abdominaux saillants et qui est dressé.
Oui, on a une caricature dans ce film de ce qu'a pu être l'image de Sparte après sa disparition. Une communauté esclavagiste, militaire, eugéniste, qui élimine les faibles pour renforcer sa puissance militaire. Cela dit, il faut bien considérer que c'est ainsi que Sparte a été vue par la postérité. Et c'est cette image de cette caricature que les nazis ont héritée et que eux-mêmes promeuvent. J'ai trouvé des manuels qui enseignent l'histoire de Sparte pour les élèves des écoles Adolf Hitler, les nouvelles écoles du parti après 1933, et pour la SS, qui enseigne donc l'histoire de Sparte dans cette direction-là. Autrement dit, il y a une élite nordique jadis qui a pratiqué l'eugénisme. Pourquoi le Troisième Reich ne le ferait pas, puisque ça lui a permis d'arriver à la puissance?
Alors, continue de feuilleter les manuels, Sparte, et puis Olympie, dont les fouilles sont sous responsabilité allemande. Et 1936, c'est l'Assomption d'Olympie dans le Troisième Reich.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Les Jeux Olympiques ont commencé. Les meilleurs athlètes du monde sont rassemblés à Berlin. 51 nations sont représentées.
Die Olympischen Spiele haben begonnen. Die besten der Welt sind in Berlin angetreten.
Mais de 51 nações enviaram para cá todos os seus esportistas, todos os melhores esportistas para dar o início ao grandioso Jogo Olímpico de 1936.
Competition will be keen, for each country has chosen its best to compete against the rest of the world.
Entre là, tout portique ouvert dans la musique d'Olympia, le film de Leni Riefenstahl, qui a suivi depuis l'allumage du feu jusqu'aux cérémonies de clôture ces Jeux de 36.
Le film Olympia de Leni Riefenstahl montre dans son prologue quelques scènes absolument ahurissantes. On parcourt les ruines de la Grèce, une espèce de pot-pourri, on voit les cariatides, on voit un buste d'Alexandre, etc. Et on assiste à une scène d'allumage de la flamme qui a été reconstituée en studio, puis au départ de la course de relais de la flamme olympique. Cette course de relais a été inventée pour les Jeux de 1936 par Goebbels et par Karl Diem. C'est quelque chose qu'on ne dit plus aujourd'hui quand on ouvre les Jeux olympiques, mais c'est une invention nazie qui devait, à l'époque, exprimer le lien topographique, physique, substantiel entre la Grèce antique et l'Allemagne contemporaine. Autrement dit, le feu sacré de la Grèce antique, de la race nordique, se retrouve désormais à Berlin après avoir brûlé en Grèce.
Et la flamme, elle arrive à la frontière allemande dans un village dont on invente le nom, Ellendorf.
Non, ce n'est pas un nom inventé, c'est un heureux hasard de la topographie.
Alors, les corps, selon Leni Riefenstahl, on va retrouver un peu les mêmes corps dans la sculpture. Je recommande la visite de l'exposition Mémorial de la Shoah à Paris, de l'exposition Le sport européen à l'épreuve du nazisme. Les abdominaux saillants, oui. Les corps huilés, et de nouveau.
1936, les Jeux Olympiques ont été conçus par les nazis comme une grande vitrine, une grande parade du nouvel empire, du nouvel État et de la nouvelle beauté de la race. De fait, l'Allemagne est arrivée première au classement officieux des médailles entre les nations. Et Hitler a, dans plusieurs discours, célébré la beauté de ce corps allemand qui n'est pas le corps d'un homme nouveau, mais le corps de la renaissance de la race. Ce qui avait été conservé dans la pierre du canon grec, désormais, est incarné par la chair de l'allemand contemporain.
Enfin, c'est un noir, Owens, qui a obtenu la plus belle médaille. Vous me direz qu'à la fin de sa vie, Leni Riefenstahl a été convertie au corps noir, puisqu'elle filmait les Nubas du Soudan. Les corps noirs, c'était le titre aussi de la revue de la SS.
Oui, le corps noir au sens de l'ordre noir, oui.
Si on passe du cinéma à la sculpture, on connaît bien en France Arnaud Brecker, parce qu'il avait, en 1942, organisé une exposition à l'Orangerie à Paris. Là aussi, des corps d'hommes nus, à tel point qu'un humoriste de l'époque disait « Heureusement qu'ils ne sont pas en érection, autrement on ne pourrait pas circuler.
» C'est effectivement, la statuaire de Brecker devait inonder, pour continuer la métaphore, l'espace public allemand, puisque ces bas-reliefs et ces statues devaient se trouver partout dans les villes allemandes, notamment dans les plans qui sont prévus de la Germania, de la nouvelle Berlin qui devait être construite. Les statues de Brecker devaient être présentes partout, tout simplement pour que dans l'espace public soit partout présent ce canon qui devait être un idéal régulateur, une obligation pour chaque Allemand, donner à chaque Allemand d'imiter le canon censé être le canon de la race.
Ah, le désir, ça n'était pas de coucher avec les statues, c'était d'imiter les statues.
Absolument, vous avez une sorte d'auto-érotisme assez manifeste.
Hélas, la Grèce séminale, pour continuer de filer la métaphore, dépérit. Il y a trop de démocratie à Athènes. Vous avez parlé des statues d'Alexandre.
Oui, c'est tardif, Alexandre. C'est considéré comme une époque de décadence, c'est l'hellénisme. Mais la Grèce a disparu de la scène de l'histoire, selon les nazis, tout simplement parce qu'il y a eu une guerre fratricide, une hémorragie. C'est la guerre du Péloponnèse, avec un massacre des Grecs entre eux, qui n'est pas sans rappeler, selon les nazis, la situation de l'Allemagne avant 1871, situation de lutte fratricide. Et par ailleurs, vidés de leur sang, les Grecs ont accueilli les étrangers et n'ont pas protégé l'excellence de leur race et ils ont dès lors dégénéré.
Les mélanges sont déplorables. Heureusement, mieux que l'empire hellénistique qui s'étend à l'infini, sans base ethnique, l'Europe va connaître l'empire romain, autrement saint, autrement vivant. Alors on va passer à Rome en écoutant l'ouverture d'une œuvre de jeunesse de Wagner, dont vous parlez dans Le National-Socialisme et l'Antiquité, Johann Chapoutot, parce que Hitler l'a goûté fort, s'y est identifié. Oui, Rienzi.
C'est un opéra de jeunesse de Wagner auquel Hitler a assisté lorsqu'il était jeune et d'après son témoignage et le témoignage de son colocataire de l'époque, c'est ce qui aurait décidé de sa vocation d'homme politique.
Alors Rienzi, c'est un personnage de Rome.
Mais de la Rome tardive, de Rome du XIVe siècle, un noble romain qui voulait recréer la Rome antique.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'Antiquité et le nazisme avec Johann Chapoutot qui participe à un numéro hors série de Philosophie Magazine sur le nazisme. Y a-t-il une pensée nazie ? Y a-t-il une histoire nazie ? Il y a une utilisation de la Grèce et de Rome par le nazisme. Mais Rome n'est pas vue comme... de notre côté français, là. Nous, nous sommes des gallo-romains. Rome pour les nazis. Ah, César, quel plus beau nom, disait Hitler. C'est d'abord l'Empire, et un empire cohérent sans mélange.
Oui, ce que vous dites est intéressant, parce que la référence antique traditionnelle en Allemagne, c'est la Grèce et pas Rome, tout simplement parce que Rome a été préemptée par la France catholique, impérialiste, napoléonienne, etc. La France du latin, la France du droit romain. Bon. Mais Hitler a une fascination avérée pour Rome et pour l'impérialité romaine. Hein, ce qui l'intéresse, c'est la conquête du monde, c'est la conquête d'un vaste empire et la domination implacable sur un empire. Alors, il y a des leçons à tirer de cet empire. Comment est-ce qu'on le conquiert ? Comment est-ce qu'on l'administre ? Mais l'Empire, ça peut être également la source du mélange, parce que la Pax Romana et l'existence de routes qui relient les différentes régions du monde peuvent conduire au mélange, et ça, il faut s'en prémunir dans le Reich à venir.
Dites-moi, les autoroutes du Reich, ça ressemble aux voies romaines ?
Non, mais...
Dans l'esprit de qui les construit ? Bah, y a des viaducs aussi, oui. Des ouvrages d'art... Alors, ont beaucoup d'importance.
Les autoroutes sont présentées effectivement par la propagande nazie comme une réitération de la geste vière romaine. Hein. Il s'agit de recréer un réseau de routes à l'imitation de l'Empire. Et effectivement, dans l'architecture des ponts, dans l'architecture des ouvrages d'art qui doivent équiper l'Allemagne, vous avez des références jusqu'à des copies du pont du Gard, par exemple. Des références claires à Rome.
Et les villes, vous nous parliez de Berlin, que Hitler voulait appeler Germania. Speer, le grand architecte, Hitler lui avait demandé « Faites-moi une chancellerie qui ne ressemble pas à un siège social d'usine de savonnette. »
Oui, il y a une volonté également de manifester les signes de l'impérialité par des édifices qui font empire. Et pour faire empire et pour affirmer la puissance, il faut faire du néo-antique, du néo-classique. C'est effectivement ce que fait Speer à Nuremberg et à Berlin, avec des bâtiments de représentation qui imitent le style romain. Et mieux que ça, qui doivent imiter également les ruines de Rome.
Alors, il y a des statues grandioses à l'entrée de la chancellerie.
Deux statues, oui.
Et celui qui est reçu par Hitler, qui est sur un siège un peu plus bas, il peut contempler les marqueteries du bureau. Et les marqueteries du bureau ornés de signes antiques.
C'est comme dans Charlie Chaplin, effectivement, le siège est un petit peu plus bas et quand vous êtes reçu, vous faites face à trois panneaux de marqueterie qui représentent Mars, dieu de la guerre, Athéna, une Athéna guerrière et casquée, et la Gorgone. Donc, au quoi on n'aurait pas compris, on est face à un seigneur de guerre.
Alors, on l'a cité, Speer, le nom de Brecker a aussi un lien avec l'architecture. En 1970, dans le magazine Dim Dam Dom, Brecker s'attribuait le plus beau rôle.
Dans le désert de l'art allemand débarrassé dès 1935 par les soins d'Hitler de l'art dégénéré, l'esthétique d'Arno Brecker, où se rejoignent harmonieusement les principes du néoclassicisme et ceux du culte de la race, devient vite l'esthétique même du Troisième Reich. Brecker avait végété dans le Montparnasse des années folles. Le régime l'investit de sa confiance absolue. Il dresse des Apollons démesurés au bord du stade de Berlin pour les Jeux Olympiques de 1936. En 1940, il revient à Paris en cicérone d'Hitler et plus tard en protecteur des arts. Hitler rêve d'un nouveau Berlin calqué sur l'Athènes antique. Arno Brecker sera son Phidias.
Hitler était tellement enthousiasmé qu'il a dit à Speer, Brecker va faire aussi la Grande Fontaine. Quand il a vu ma fontaine, on m'a fait venir encore une fois pour me montrer l'Arc de Triomphe. Et l'Arc de Triomphe était une copie d'un dessin de lui qu'il avait fait quand il était blessé de guerre.
Un dessin de Hitler.
De Hitler, oui, n'est-ce pas? On a texte tellement copié son dessin, n'est-ce pas? Elle avait une hauteur de 120 mètres, n'est-ce pas? Et la porte était si haute qu'on pouvait mettre l'Arc de Triomphe de Paris dedans.
Présentation et interview de Brecker en 70 par Pierre Desmeron, l'Arc de Triomphe de Paris dans le futur Arc de Triomphe de Berlin, organisé selon un axe nord-sud. Mais il y a les villes et puis il y a aussi les colonies gagnées dans l'espace nouveau, sur le modèle du soldat paysan de l'Empire romain.
Alors, ce qui est dit sur l'architecture, c'est très important parce qu'il s'agit de faire du romain, mais de dépasser évidemment le modèle historique Rome et les modèles contemporains, les concurrents contemporains, en faisant plus grand et plus haut. Et pour ce qui est des colonies, oui, il s'agit d'agir à la romaine en projetant l'Urbs, c'est-à-dire la ville de Berlin, dans toutes les provinces de l'Empire, en recréant la même architecture, les mêmes forums, etc. Par ailleurs, en 1941, en octobre 1941, lorsque le Reich est en train de gagner la guerre contre l'URSS, Heydrich, le numéro 2 de la SS, le chef de l'Office central de sécurité du Reich, fait un discours à Prague où il dit « Voilà, nous allons gagner la guerre, mais nous allons être confrontés au problème de la victoire. Le problème, c'est que nous sommes trop peu nombreux, nous sommes excellents, mais trop peu nombreux face à des masses trop importantes. Il va donc falloir faire comme les Spartiates, nos ancêtres les Spartiates. Il va falloir ilotiser l'Europe, transformer l'Europe de l'Est en population d'ilotes, d'esclaves pour la cause de notre empire. »
Alors là, on est déjà dans la guerre. Face aux ennemis qui rôdent, il vaut mieux attaquer que se défendre trop tard. La France est vaincue en 40. La France est le pays des sans-mêlés. C'est le titre d'un inédit du grand historien Lucien Febvre qui va paraître prochainement. Et en 1941, les Allemands se retrouvent aussi maîtres de la terre grecque.
Et voici maintenant des documents qui nous sont parvenus du théâtre des opérations militaires en Grèce. Au pied de l'Olympe, où la résistance opiniâtre de l'ennemi ayant été rompue, la route d'Athènes est libre. Bientôt, les troupes du Reich pénètrent dans la capitale grecque. Les soldats du Reich parcourent les ruines de la Grèce antique. Un camp de chasseurs alpins allemands sur la côte de la mer Égée.
Les officiers et les soldats du Reich parcourent les ruines de la Grèce antique. On parlera de l'esthétique des ruines. Enfin, il vaut mieux parcourir les ruines que de rencontrer les Grecs tels qu'ils sont devenus en 1941.
Oui, quand en 1941, la Wehrmacht et la SS interviennent en Grèce, alors que ce n'était pas prévu, la presse allemande présente cette invasion comme une troisième vague, une deuxième ou une troisième vague de migration nordique. Autrement dit, la Grèce était une terre irrédente, jadis colonisée par les Nordiques, et les Germains ne font que reprendre une terre qui leur appartient. Mais par contre, la population qu'ils rencontrent les déçoit. Et j'ai trouvé beaucoup de témoignages qui rapportent cette déception. Ce n'était pas du tout ce qu'on nous avait enseigné, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu à l'école. On rencontre des Levantins crépus et non pas des grands blonds sveltes et galbés. Mais l'ASS envoie quand même des missions d'ethnologie, notamment en Laconie, hein, l'ancien territoire de Sparte, pour aller quêter la chevelure blonde et les yeux bleus. Et ils en trouvent.
Question de l'Allemagne en 1941, je précise. Qu'est-ce qu'on peut sauver de la Grèce? Alors, en 1941, ensuite, une fois la situation un moment stabilisée en Grèce, on peut s'attaquer à l'URSS. Alors là, l'URSS, c'est l'Asie sémitique. C'est
oui.
L'ennemi.
Oui, c'est la nouvelle Carthage ou la nouvelle Judée. De même que les Grecs avaient fait face à des Perses qui étaient censés être asiatico-sémitiques, de même que Rome avait fait face à Carthage puis aux Juifs en Palestine, de même le Reich affronte à nouveau, c'est toujours la même histoire dans l'histoire de cette pauvre race nordique qui est toujours attaquée par les méchants, elle fait face à un danger immense à l'Est. Les leçons de l'histoire doivent être tirées. Rome avait détruit Carthage, certes, mais uniquement les murs et non pas la population. À bon entendeur, salut. Et ce que l'on enseigne en termes d'histoire, d'enseignement d'histoire aux troupes de la SS, c'est que Rome a péri de ne pas avoir été armée par le concept de la race Rome a péri de ne pas avoir détruit totalement la population de Carthage.
Alors quand, dans la radio collaborationniste Radio Paris, on entend Jean-Hérold Pacchi dire quotidiennement « il faut que l'Angleterre, comme Carthage, soit détruite », ça veut dire que l'ennemi doit voir ses villes rasées. L'Angleterre, l'URSS, des pays bâtards, métissés. Et l'ennemi juif, alors lui, il ne s'attaque pas nécessairement frontalement, comme Carthage, à l'Empire romain. Il est décrit comme procédant insidieusement.
L'Empire romain, disent les nazis, s'est affronté au danger juif, mais les juifs ont perdu militairement, ce qui est normal selon les nazis, puisque les germains sont toujours les meilleurs. Donc les juifs se sont, selon les nazis, réfugiés dans le complot, un complot qui s'appelle le christianisme. Le judéo-christianisme, insistent bien les nazis sur l'adjectif judéo. Un complot qui vise à créer une culture nouvelle, qui est une culture de l'égalitarisme, de l'amour universel, de l'universalisme, qui vient détruire de l'intérieur, viruser et détruire l'édifice hiérarchique, raciste, eugéniste, qui était censé être l'Empire romain aux yeux des nazis.
Donc le christianisme, c'est un complot inventé par les juifs et notamment par Saint Paul pour parasiter l'Empire.
Saint Paul qui est qualifié de commissaire politique par Hitler. Hitler qui dit de même que le juif Mordechai est devenu Marx, le juif Saul est devenu Paul. Et le christianisme, dit Hitler, c'est également le bolchevisme de l'Antiquité.
Oui, enfin Hitler ne veut pas s'attaquer à Jésus-Christ tout de suite. Carthage doit être détruite, c'est finalement Berlin qui va être rasé comme Carthage, non sans une dernière mise en scène, même dans les derniers mois, quand il sacrifie tant et tant d'hommes, tant et tant de villes, Hitler pense à l'Antiquité.
Oui, il pense, si le Reich de Milan est impossible, du moins un mythe de Milan est possible. Il faut s'immortaliser par sa mort, il faut s'immortaliser par la mémoire d'une sortie de scène absolument fracassante. C'est ce que dit Goebbels lors de sa dernière conférence de presse. Nous allons peut-être perdre, certes, sous les bombardements soviétiques, nous allons peut-être perdre, mais de telle manière qu'on se souviendra de nous pour les siècles des siècles.
Alors vous avez étudié les manuels destinés aux jeunes gens, vous avez lu la presse de la fin des derniers mois et des campagnes de presse dans les journaux en avril 45 font référence explicitement à l'Antiquité.
C'est absolument ahurissant de voir que fin avril 1945, alors que tout est fini objectivement, la presse nazie continue à publier des articles sur la Seconde Guerre punique, c'est-à-dire cet assiègement de Rome par Hannibal, à un moment où Rome se croyait perdue, et ce retournement inattendu de la fortune militaire sous le commandement de Fabius Cunctator, qui a finalement battu Hannibal. Hannibal, évidemment, c'est Staline, et le nouveau Fabius Cunctator, le nouveau consul qui va sauver la ville, c'est évidemment Hitler, ce qui est en ligne avec le discours que développe Hitler en privé à ce moment-là, qui est « je maîtrise tout, j'ai laissé venir les soviétiques dans la nasse, la situation va se retourner, c'est une ruse ».
Alors on avait trois possibilités pour finir, Fabius Cunctator, on n'a pas trouvé. La fin de Rienzi, parce que Rienzi, le héros de l'opéra de jeunesse de Wagner, il meurt écrasé sous le Capitole, il se suicide après avoir sacrifié son peuple. C'était peut-être le choix de nos techniciens, Cédric Lalanne et Ronan Maillé, qui avaient été séduits par l'ouverture. Mais notre réalisateur, Jacques Sigal, a préféré la troisième fin. Léonidas, le chef spartiate, nu sous la lune et qui jette ses troupes dans la guerre des Perses, dans la gueule de l'ennemi asiatique.
Écoutez-moi, pas de retraite, pas de reddition, c'est cela. La loi de Sparte. Et parce que nous respectons cette loi, nous allons tenir, nous battre et mourir. Et tous sauront que 300 Spartiates ont rendu leur dernier soupir en la défendant.
Une unité de la Luftwaffe commandée par Skorzeny porte d'ailleurs le nom de Léonidas, elle était spécialisée dans les missions suicides. Les ruines telles qu'elles sont préparées, là, c'est encore de l'Antiquité.
Sperr rapporte que Hitler lui avait demandé, dès les années 30, de construire ces bâtiments de telle manière que les ruines de ces édifices puissent ressembler à des ruines romaines. Donc il y a un souci du ruinisme, un souci de la mise en scène, de la mise en scène de la mort dès le départ.
Merci à vous, Johann Chapoutot. Vous participez au hors-série de Philosophie Magazine consacré au nazisme. Y a-t-il une pensée nazie? Les philosophes face au nazisme. Vous avez publié récemment la documentation française « Le nazisme en acte. Il faut que je précise que vous appartenez à l'Institut universitaire de France. Nos excellences demandent qu'on marque cette qualité singulière pour un jeune universitaire. Et puis, au PUF, en 2008, le national-socialisme et l'Antiquité. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, Camille Poux-Jalaguier. Demain, les HLM, il est 14h, vous écoutez France Inter.